mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Catherine.
Quel sera notre thème cette semaine ?
Je te propose de clarifier la question de l'ennemi dans une perspective girardienne.
L'ennemi ? Ce n'est pas un sujet plaisant.
Certes, mais l'actualité fait depuis quelque temps un usage surabondant du mot. Le mot « ennemi » ne fait pas partie du vocabulaire girardien. Non, que René Girard ne l'emploie pas, en particulier dans « Achever Clausewitz ». Mais il n'en a pas fait un concept de la théorie mimétique. À la réflexion, c'est un peu étrange, dans la mesure où cette théorie rend compte de la violence entre les êtres humains. Comment se fait-il qu'un terme aussi usuel pour décrire les antagonismes, partant la violence, n'ait pas trouvé sa place dans le corpus girardien ? Dans les définitions classiques du mot « ennemi », entre « haine » et « volonté de nuire ».« Haine » et « volonté de nuire » à l'égard de quelqu'un ou de sa part. Les définitions ne sont pas claires. Cette personne est-elle mon ennemi parce que je la hais et que je cherche à lui nuire ? Ou est-elle mon ennemi parce qu'elle me hait et qu'elle cherche à me nuire ? Notre soif de bonne conscience se hâtera de répondre à cette question. Néanmoins, elle demeure et implique une circularité, une réciprocité à laquelle le girardien Durand ne saurait faire la sourde oreille. Elle l'entraîne sur la piste de l'ennemi comme rival mimétique. Le mot « ennemi » vient du latin « inamicus ». Il ne désigne donc pas une notion première, il n'est que la négation de la notion d'amitié. Le latin propose un autre terme pour désigner un ennemi, c'est le mot « hostis », d'où viennent « hostile », « hostilité », etc. Tous des termes parfaitement dans le sujet. Mais « hostis » partage une même racine avec un autre mot latin de signification très différente. Hostia. Ce mot désigne la victime lors d'une offrande aux dieux, d'où l'hostie de la religion catholique. Comment alors reprocher aux girardiens du rang de se dire « me voici sur la piste de l'ennemi comme victime émissaire ».
Alors, l'ennemi est-il le rival mimétique ou le bouc émissaire ?
Un rival mimétique mérite bien sûr la qualification d'ennemi. Nous le haïssons en tant que modèle obstacle, et nous cherchons à le neutraliser. Mais est-il possible d'avoir des ennemis qui ne soient pas des rivaux mimétiques ? À cette question, la théorie mimétique répond par un postulat, le postulat fondamental de Girard, selon lequel tout vient du mimétisme. Chacun reste bien sûr libre d'accepter ou pas un postulat. La question de l'identité entre ennemis et rival mimétique n'est donc pas réglée. Venons-en à la piste de l'ennemi comme bouc émissaire. Nous avons vu à quel point l'étymologie accrédite cette thèse. Et non seulement hostis, l'ennemi, et hostia, la victime sacrificielle, partagent la même racine, mais par surcroît le mot hostis a encore un autre sens. Il signifie l'étranger, mais l'étranger qui est accueilli. Il en vient le terme hospitalia, qui désigne chez Vitruve les appartements réservés aux étrangers. Hospitalia n'a pas seulement donné hospitalité et hôpital, mais aussi hôte, encore un terme d'une circularité parfaite, puisqu'il désigne aussi bien celui qui est accueilli que celui qui accueille. Il a même donné otage, dont l'étymologie est plus visible dans le mot anglais hostage. Comment ne pas penser au mécanisme si bien décrypté par Girard, selon lequel un étranger, un captif, doit d'abord être accueilli dans la communauté, intégré en quelque sorte, afin de faire plus tard un bon bouc émissaire. Par ailleurs, bouc émissaire et ennemi présentent de nombreux points communs.
Lesquels ?
À l'un comme à l'autre est attribuée l'origine des maux qui accablent la communauté. En conséquence de quoi, l'harmonie et le bien sont censés jaillir spontanément après son sacrifice, pour le bouc émissaire, ou sa neutralisation, pour l'ennemi. D'autre part, l'un comme l'autre font l'objet d'une désignation. Comme le disait Carl Schmitt, l'essence du politique, c'est de désigner l'ennemi. L'ennemi, au sens collectif, est donc quelqu'un qui a besoin d'être désigné. Mais le bouc émissaire également. Les commentaires de Girard sur le prétendu miracle d'Apollonios de Tyanes montrent que la cristallisation d'une communauté sur une victime émissaire a besoin d'un médiateur, de quelqu'un qui désigne. Mais en dépit de l'étymologie et de ses points communs, il est aisé de constater qu'ennemi et bouc émissaire diffèrent profondément. D'abord, citons Girard. Avoir un bouc émissaire, c'est ne pas savoir qu'on l'a. Mais à contrario, l'existence d'un ennemi nous échappe rarement que nous le haïssions ou que ce soit lui qui nous haïsse. Ensuite, nous cherchons toujours à neutraliser un ennemi, peut-être pas pour le détruire, mais au moins pour l'empêcher, le contraindre, l'isoler. Tandis qu'un bouc émissaire, nous le conservons, nous en prenons soin, autant que de ces rois africains dont René Girard raconte, dans La violence et le sacré, les égards et les faveurs que leur accordent les tribus, en tout cas jusqu'à leur mise à mort en cas de crise. Enfin, Girard nous a fait prendre conscience qu'un bouc émissaire est toujours une victime innocente. Or, il nous est impossible de considérer comme des victimes innocentes un certain nombre d'ennemis, vaincus ou pas encore vaincus, tels que l'histoire ou l'actualité nous les présente. Nul besoin de citer d'exemples, ils viennent à l'esprit spontanément. Nous voici donc partagés entre acquiescement et rejet quant à faire des synonymes de bouc émissaire et ennemi.
Ne pourrait-on pas dire que le bouc émissaire est un ennemi de l'intérieur, puisqu'il fait partie de la communauté, tandis que l'ennemi de l'extérieur, celui qui est désigné par les politiques, serait plutôt un rival mimétique?
Je te suis bien volontiers dans cette distinction, Catherine. Les guerres du XXe siècle, spécialement la Première Guerre mondiale, puis plus tard la Guerre froide, montre bien que l'ennemi extérieur est avant tout un rival mimétique. En 1914, l'Empire britannique est inquiet de l'essor de l'Allemagne, qui ne cache pas son ambition de se tailler un empire à son tour. Après 1945, le monde communiste et le monde libre sont de parfaits rivaux mimétiques.
Quels enseignements tirer de ce rapprochement entre ennemis, bouc émissaire et rival mimétique ?
J'en vois un. Il s'agit de sortir de la méconnaissance à leur égard, de dissiper les illusions ou les mensonges que nous entretenons à leur sujet. La vision de Girard nous en ouvre la voie s'agissant des boucs émissaires et des rivaux mimétiques. Il nous a montré que les boucs émissaires sont innocents, ou en tout cas pas si coupables de ce dont on les accuse. Girard nous a aussi montré comment nous alimentons nous-mêmes les rivalités mimétiques. Un travail identique ne serait-il pas fructueux dans le cas de nos ou notre ennemi ? Sommes-nous si sûrs d'être parfaitement innocents et lui ou eux si parfaitement coupables ? N'avons-nous vraiment aucune part à l'hostilité qui règne entre eux et nous ? Comment se fait-il que des ennemis mortels deviennent des amis et réciproquement ? Ainsi Saddam Hussein, qui fut d'abord un grand ami des États-Unis dans sa guerre de 8 ans contre l'Iran, ou encore le nouveau président de la Syrie, précédemment un dirigeant d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Les examens de conscience auxquels René Girard nous invite à l'égard de nos boucs émissaires et de nos rivaux sont peut-être aussi à mener en ce qui concerne nos ennemis, désignés ou pas. C'est toujours un pas en direction du précepte de Jésus, rapporté par saint Matthieu : aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs. Arrêtons-nous ici pour cette semaine. Au revoir Catherine.
Au revoir Jean-Louis. Et merci aux auditeurs de leur écoute.